Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Que reste-t-il des enfants du rock qui sont aujourd'hui parents, voire grands-parents d'enfants dont on espère, sans trop y croire, dans tes rues de la concurrence frontale d'un Pascal Obispo, qu'ils reprendront le flambeau pour mettre le feu partout? Oui, qu'en reste-t-il? Et s'il en reste quelque chose, j'encourage ce quelque chose, pour autant qu'on puisse qualifier de quelque chose les fidèles auditeurs d'une radio publique, je l'encourage donc, disais-je, à se rapprocher du poste pour écouter les belles et édifiantes histoires dont il va être question dans ce pop-pop-pop. Car nous recevons aujourd'hui celui qui est au rock ce que Saint-Pierre est au christianisme, Tom Cruise à la scientologie, Christine Angot à l'autosatisfaction ou Laurence Bloch à l'art du brushing, un prosélyte, un infatigable missionnaire qui depuis près de 40 ans photographie tout ce qui bouge sur la planète rock. À force de photographier des légendes, il a fini par en devenir une lui-même. Il a réussi la prouesse de réunir en un ouvrage 1000 clichés en les évitant tous. Richard Bellia est l'invité de pop-pop-pop.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Au menu de pop-pop-pop également, lui.
Hand me down.
Hugh Coltman, le musicien anglais, sera tout à l'heure en live sur la scène géante de pop-pop-pop. Mais avant de parler de musique, regardons-la. Avec l'artiste qui a photographié les icônes du rock depuis 1980 pour en faire un livre de 5 kilos. Bonjour Richard Bellia.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop-Pop-Pop, à mes côtés Charline Roux, bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Richard.
Voilà pour le menu, bonjour. Je laisse à un artiste que vous avez photographié, Richard, le soin de lancer cette émission.
Hi, this is Damon Albarn, and you're listening to France Inter.
Pop-Pop-Pop, c'est parti.
Damon Albarn.
Ah, c'est Damon, ça.
Ah oui, avec sa grosse voix. Richard Bellia, ici il existe une question obligée sans laquelle nous ne saurions rentrer dans le vif, ni dans le sujet, encore moins dans le vif du sujet. Cette question, c'est... Pour vous, Richard Bellia, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour moi, la pop culture, c'est ce qui reste de la pop quand on a tout oublié. ACDC, le guitariste, il est habillé comme un écolier. Captain Beefheart, c'est bizarre. Les youtubeuses, elles finissent toujours par pleurer. Starsky et Hutch, ils sont sympas, mais je sais jamais lequel et qui est qui. Bataille et Fontaine, pareil. McFly et Carlito, je t'en parle même pas. Marathon Man, c'est chez le dentiste. Le dernier tango à Paris, c'est un peu la cuisine au beurre. Rachida Dati, c'est un peu Lana Del Rey. Jean-Luc Lahaye, c'est un peu Michael Jackson. Lady Gaga, elle a une robe en viande. Et Johnny, c'est pas bien ce qu'il a fait.
Ah, bah voilà. C'est une définition,
complète.
Oui, moi, ça me va très bien. Est-ce que vous validez ça, ma chère Charline?
Ouais.
Et ben voilà, l'émission a donc démarré officiellement, Richard.
Une semaine de travail, les gars.
Oui, mais ça paye le travail. Richard Bellia, avant de continuer à parler de pop culture, écoutons un artiste que vous n'avez pas encore photographié. C'est normal, il vient de faire son arrivée. C'est Romeo Elvis avec le morceau « Désert ».
Hey, je suis avec cette femme pour une longue story. Des fois on se fait mal et puis on se corrige. Je suis avec cette team pour de longues années. On fronce ma mène, on fait le taf grave et on pionce après. J'ai les vannes là que le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Mais ça me fait pas peur, je suis une bête de scène. C'est mon oreille qui siffle comme une fête de corps. Mais ça me fait peur, je suis en quête de zen. Mec, s'te plaît, c'est de l'effort quand tu viens au concert. Je suis handicapé. C'est ma technique pour chauffer la salle chez les gens d'ici ou les gens du Cap Vert. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. Joue sur Puma, sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verte. Joue sur Puma, sur les pieds, j'applique quand même des dress codes. Ouais maintenant, je peux pas laisser passer cette prod. J'habite seul, c'est plus facile, mais j'applique quand même des dress codes. Ouais mais ouais, le thème est plus ou moins trouvé. 2h30 de pause en tout, mais ça m'a pris toute la journée. Morale de luxe 2018, ya yeah, ya yeah. Je suis entouré que des meilleurs comme le Touré, ya yeah, ya yeah. J'ai juste envie de faire des scènes, passer tout de suite au dessert. J'arrive même plus à fantasmer sur une jolie playa. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verte. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte
et des burs de verre. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. N'empêche que tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau.
C'est le désert est devenu un dessert en featuring avec le Motel, cet extrait de son premier album Moral de Luxe. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Richard Bellia qui mitraille la scène rock depuis 4 décennies sans avoir jamais fait de victime, et c'est l'heure de son pop portrait. Alors qu'est-ce que c'est votre pop portrait, Richard? Ben, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Et je débute par une question. Que faites-vous quand vous allez à un concert? Petit passage de bon aloi par le bar, trouver son siège, s'y asseoir, en profiter en tapant éventuellement la mesure, pour les plus zinzins, peut-être un petit slam s'il le faut. Mais tout ça, c'est pour le commun des mortels. Notre invité, lui, ne supporte pas de rester inactif pendant les shows, alors il a décidé, plutôt que de boire de la bière tiède en attendant les rappels, de faire des photos. Alors attention, hein, pas des photos posées, façon c'est l'enfer de la mode, c'est vraiment super sympa. Non, des instants captés au cœur de l'action, de sa première photo de concert avec Bijou à son obsession pour Robert Smith, en passant par ses publications pour Santiago, sous la direction de Denis Robert, pour le Melody Maker, le New Musical Express, pour Roxane, pour ne citer que, il va tout nous raconter sans filtre, pas comme sur Instagram. Plus de 35 ans de carrière durant lesquelles il a immortalisé The Cure, Frank Black, Nirvana, Iggy Pop, Bachung et bien d'autres. 35 ans de photos résumées en 1000 tirages, 5 kilos, et c'est ce qui l'amène parmi nous aujourd'hui.
Et alors d'abord, on est raccord sur les chiffres et les lettres?
C'est environ ça, le livre, c'est un peu plus en fait, le livre fait 5 kilos 6.
C'est important d'être précis.
Hein. Mmh. Oui, quand tu les portes, c'est... Oui. Donc le livre fait 5 kilos 6, il n'y a pas 1000 photos, il y en a 1100. Mmh. C'est pas 4 décennies, ça fera 4 décennies dans 2 ans.
Dans 2 ans, oui. 38 ans, voilà. Voilà, ok. Bien, tout ça est clarifié. Richard Bellia, allons dans le supermarché de la pop culture pour voir ce que vous mettez dans votre caddie. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, commençons avec le livre, vous avez choisi Le Petit Ivre Rouge, écrit par Franio Ahatot et paru en 2004. Ce livre est un guide traduit en 18 langues pour pouvoir picoler en voyage. Voilà, c'est très simple. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait?
Bien entendu, c'est donc, ben, tu viens de tout dire, vous venez de tout dire, pardon, c'est un petit livre de voyage où il y a toutes les phrases utiles quand on boit. Et c'est pour pas être pris de court si on se retrouve en Italie, au Japon, en Mongolie, ou chez les Roumains, en Serbo-Croate, le Swahili, le Tchèque, le Yiddish, voire le Sildav tantrique, toutes les langues existent
pour pouvoir picoler.
Alors il y a quelques phrases qui, alors ça commence par bonjour, bonne nuit, espèce d'ivrogne, éponge, comme on dit ça. Dites-moi, cher ami, dans quel pays je me trouve? J'aime beaucoup celle-ci.
C'est déjà qu'on a beaucoup bu, là.
Ouais, dans ma famille, on trouve des alcoolos très célèbres. Je suis très heureux d'avoir la chance de vous connaître. Votre femme est charmante. On voit que la soirée avance un petit peu. Et c'est blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Ça, en 18 langues traduites, c'est bien. Celui qui ne boit pas, il boit contre nous. Beaucoup ça. Je suis très classique, mais j'adore les beuveries modernes. Je pisse ici parce que je ne savais pas que vous étiez dans la voiture. Si vous étiez flic, vous pourriez m'appeler un taxi. Et ça se termine par « Ne parlons plus de cette moquette, elle était déjà tachée et évidemment je paye la réparation des meubles. »
D'accord, voilà, donc c'est un petit ivre rouge absolument indispensable en voyage. Voilà. Et évidemment, je rappelle, à consommer avec modération puisque nous sommes...
Oui, c'est marqué, le bouquin se lit en horizontal, en vertical. Toutes les pages sont mis, l'abus d'alcool est dangereux pour le machin, etc.
C'est les ribat trip en fait.
C'est ça. Et pour ceux qui... Franio Ahatot, par ailleurs, est quelqu'un qui est connu dans le milieu rock parce que c'est lui qui a fait fait la pochette de Noir Désir, des visages, des figures, et les traductions françaises de ce, les textes français sont de Bertrand Cantat. Voilà.
Très
c'est,
bien.
C'est vraiment un bouquin pour se faire des potes planétairement, c'est top. Il n'y a même pas besoin de boire, en fait.
Très bien. Voilà pour l'œuvre, l'ouvrage littéraire. Nous vous avons demandé également de choisir un film, et là, vous nous avez répondu ça. Un Kodak Tri-X-Pan 36 poses. Mais vous avez également choisi Spinal Tap, un film réalisé par Rob Reiner, sorti en 84. Le film est un documentaire parodique sur un faux groupe de métal.
Ça, c'est un ampli. Hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien, là. Hein, oui. Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, non, regarde, là, tous.
Ouais, ah oui, je vois. Et la plupart des amplis 11. Vont jusqu'à 10.
Ouais, hein. Exactement.
Et ça veut dire qu'il est plus puissant, que le son est plus fort.
Bah, c'est plus fort d'un cran. Hein.
Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum. Et que le son soit plus fort à 10.
Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Alors, faux groupe, mais vrai choix, Richard Belliat.
C'est tellement drôle. C'est tellement drôle, ce film parodique sur la vie d'un...
Il est si parodique que ça, d'ailleurs.
Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de groupes enfin, tous les groupes le regardent dans le tourbus en disant c'est incroyable à quel point on se croirait à la maison. Là. La deuxième chose qui est vachement intéressante avec ce film, c'est qu'on peut le voir comme une préquelle d'un film de Martin Scorsese. Il y a beaucoup d'indications dans le film qui disent qu'en fait, ils ont fait Spinal Tap pour se foutre d'un film que Scorsese avait fait 4-5 ans avant, qui s'appelait La Dernière Valse, The Last Waltz, dans laquelle Scorsese suivait des musiciens. Donc, pour le coup, qui existait pour de vrai, c'était un groupe
de Bob Dylan.
Les musiciens de Bob Dylan, The Band. Un gros documentaire dans lequel ils parlaient, puis donc ils les filmaient, on les voyait en train de jouer avec Dylan et tout ça. Leur dernier concert, The Last Waltz, c'est le nom du film de Scorsese.
Donc, serait une parodie.
Il y a tout un tas d'indications qui disent c'est clairement une ce qu'on appelle une préquelle où en fait ils ont raconté ce qu'ils étaient passés avant. Le meilleur exemple c'est qu'ils le disent dans le film. Dans le film parodique. Donc les deux sont MGM, hein, c'est le même producteur. Dans le Spinal Tap, on les voit donc ce groupe assez minable qui va de mauvaise scène en etc. Et quand ils terminent leur tournée, la dernière scène du film, il faut regarder sur le bord de la piscine à Los Angeles au Four Seasons, si je me trompe pas. Et il y a une journaliste qui fait une interview d'eux qui dit les gars, qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Une dernière valse, peut-être. Et donc, littéralement, le titre du film de Martin Scorsese est signé là-dedans. Et ça commence également par Rob Reiner, qui dit, salut, je m'appelle Marty DiBerghi, le petit Rital sympa avec une caméra sur l'épaule.
D'accord.
Évidemment, c'est Scorsese.
Un faisceau d'indices absolument indiscutables.
Un faisceau, ils le disent.
Merci Richard pour cet éclairage nouveau sur Spinal Tap. On va le regarder. Et on voit
dans le film Scorsese qui a l'air complètement idiot parce qu'il se fait même expliquer ce que c'est que le rock'n'roll par le batteur de The Band. la scène est folle.
Bon.
Et donc Rob Reiner se fout de la gueule de tout ça. Voilà.
Restons avec la musique. Pour la chanson, vous avez choisi les Electro Hippies avec Mega Armageddon Death Part 3 que nous allons écouter pour une fois en intégralité. Voilà, c'était Mega Armageddon Death Part 3 signé des Electro Hippies sur France Inter. Un morceau très court, on va dire.
Alors, si on l'écoute en 33, ça dure un peu plus longtemps.
On peut le réécouter. Pourquoi ce choix, Richard Belliat?
Parce que j'en ai jamais marre de l'écouter, la chanson-là.
Bah, c'est sûr, c'est difficile de s'en lasser.
Si le disque est rayé, tu t'en fous.
Mais il n'y a pas de solo dedans, c'est ça qui est...
Alors, il y a deux faces. Il y a une face, ça c'est la face instrumentale, et de l'autre côté, il y a un groupe qui a fait un morceau, mais avec un titre, enfin avec des vocaux.
Oui, il y a une balade derrière, ça c'est la...
Non, c'est pas une balade, mais il y a ça c'est la version instrumentale. Enfin, c'est le disque le plus court de l'histoire du monde, c'est chaque face fait une chanson, une seconde, pardon.
Très bien. Alors voilà pour la musique.
On peut écouter l'autre face. Oh non, elle est super mieux, c'est de Napalm Death.
Ah ben je l'ai aussi, évidemment. Écoutez-la.
Ah mais non, mais tu parles pendant l'intro.
Bon, alors pardon, j'ai parlé pendant l'intro. On écoute. Voilà.
Voilà.
Ça va, j'ai...
Voilà, on a écouté... Donc,
j'ai respecté.
On a écouté, donc, Napalm Death sur la radio, c'est bien.
Sur la radio publique nationale. Vous avez également choisi un autre titre signé de Napalm Death, mais c'est celui qu'on vient d'écouter, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est la face B du 45
tours. Ah, ok, pardon, je croyais que c'était le même groupe avait fait deux morceaux d'une
seconde.
Non,
c'est deux groupes, il y en a un qui s'appelle Electro-Hippies et l'autre qui s'appelle Napalm Death.
Ça y est, j'y suis. Alors, puisqu'on a la musique, on va finir la pop-list avec la série. Et pour la série, vous avez choisi The Late Show de John Oliver sur HBO. Last Week Tonight with John Oliver, diffusé depuis 2014.
Last December, the president made it clear that income inequality was going to be a big priority.
I believe this is the defining challenge of our time.
Yes, the defining challenge of our time. Well, one of the two defining challenges of our time, the other being Candy Crush level 97. That is hard. I've got a lollipop hammer and I still can't.
Pourquoi John Oliver?
Là, c'était enregistré, c'était pas sous Trump, hein, c'était la voix de Obama qu'on a entendue, n'est-ce pas ? C'est une archive assez ancienne, n'est-ce pas ?
Oui, mais c'était bien John Oliver qui parlait.
Parce que John Oliver, c'est un Anglais qui vit aux États-Unis depuis quelques temps et qui fait ce qu'on appelle de l'infotainment, c'est-à-dire moitié information et moitié
entertainment,
amusant, mais en même temps, ils ont le droit d'être amusants parce que les informations, elles sont vérifiées. Mm-hmm. Voilà. Et à ce jeu-là, il y a plusieurs talk shows aux États-Unis. Mm-hmm. Lui, il passe le dimanche soir à la télé anglaise, donc le lundi matin sur YouTube.
C'est votre préféré.
Oh, c'est
il a commencé comme correspondant chez Jon Stewart à l'époque du Daily Show, en fait, où déjà il faisait de l'info sérieuse, mais de manière corrosive.
Oui.
Et là, il a récupéré un show entier.
Oui, un jour aussi.
Il est très, très fort.
Oui, un jour aussi, vous aurez votre émission également, je suis sûr.
Moi, j'y tiens pas, je suis bien là, moi.
Ah, j'avais cru comprendre ça, pardon.
Non,
alors,
non.
Je résume, le petit livre rouge, la Kodak Tri-X 36 pose, Spinal Tap, Mega Armageddon Death Part 3, You Suffer, John Oliver, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
I believe this is the defining challenge of our time.
Tiens, regarde bien là, hein? Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11.
Je suis très classique, mais j'adore les beuveries modernes.
Defining challenge of our time.
Oui, je vois.
Well, one of the two defining challenges.
Et la plupart des amplis vont jusqu'à 10.
Ouais, exactement.
The other being Candy Crush level 97. That is hard.
L'ampli là, il va jusqu'à 11.
Je suis très heureux d'avoir la chance de vous connaître. Votre femme est charmante.
Richard Méliès, ça vous correspond ? Ça vous aime, en tout cas ?
Ah, c'est le bruit que ça fait le matin quand je me réveille et je fais « Ah !» monde ennuyeux.
Je vais vous le mettre en boucle.
Ah, je vais l'avoir à la radio.
Pour écouter ça à la réveil.
Vous avez fait ça, bravo. Hein ?
Merci beaucoup, c'est Gislain Fontana, notre réalisateur.
Ah ouais, c'était un plaisir.
Bon, alors, écoutez, ça tombe bien parce qu'on va rester dans la pop culture avec Marlon Williams et le morceau « What's Chasing You ?» Marlon Williams, What's Chasing You, c'est extrait de l'album Make Way for Love et on aime ça ici. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Richard Béliat. Richard Béliat, à la demande du service juridique de France Inter, je me dois de vérifier quelque chose avant de commencer l'interview. Nous savons que vous avez déposé le nom Rock'n'Roll. Est-ce que ça signifie que si je prononce le nom Rock'n'Roll au cours de cette interview, je vais devoir vous payer des droits?
Je suis propriétaire de Rock'n'Roll, effectivement. J'ai déposé à l'INPI, c'est à moi, ouais. Mm-hmm. Je vous laisse, c'est bon. Je l'ai déposé en production d'émissions de télé, production d'émissions de radio et divertissement. C'est-à-dire que c'est effectivement, typiquement, si vous utilisez le mot Rock'n'Roll, enfin, si vous faites une utilisation du mot commercial, une utilisation commerciale de Rock'n'Roll, à la radio, vraiment...
Ça repasse par vous.
C'est-à-dire que
j'ai envie de dire bien joué.
Non, mais j'attaque personne. mais comme ça évite d'avoir des gens qui me disent ah, il faut que t'écoutes ça, c'est vachement rock'n'roll et tout. J'ai fait écoute, c'est ma marque. Donc tu me dis pas ce que je dois faire. Tu me demandes mon avis.
Gardien du temple.
Non, mais c'est juste pour éviter d'avoir des discussions ennuyeuses au bar des concerts où les gens essayent de m'expliquer ce qui est rock'n'roll ou pas.
Bon, alors votre livre, Richard Béliat, s'appelle Un œil sur la musique, pourquoi ne pas l'avoir appelé un œil sur le rock'n'roll? Vous vouliez pas vous payer des droits vous-même?
Non, c'est non. Pas ça. Non, pardon, pour revenir un peu sérieux sur le bouquin, c'est la musique. Il y a beaucoup de rock, il y a de la musique pop aussi, il y a de la chanson française, il y a des petits bouts de jazz ou de musique contemporaine ou quoi, mais c'est pas du rock'n'roll. Voilà.
Alors, Richard Béliat, vous n'êtes pas venu avec ce livre de photos, Un œil sur la musique, car c'est très compliqué de se déplacer avec. Effectivement, ce livre pèse 5 kg 600 g. Attendez, moi je l'ai. Je l'attrape et je vais le poser sur la table. 5,6 kg de rock, hein, à travers 1100 photos de 1980 à 2016, en 800 pages, le tout pour 130 euros. Alors 5,6 kg de pop culture, ce qui nous fait le kilo à 23,20 € et la photo à 11 centimes. Ma petite dame, qu'est-ce que je vous mets avec ça?
Oh, ça, c'est le prix du bœuf.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, non?
Ça, c'est le prix du bœuf. Je suis au prix du steak.
Vous êtes au prix du steak, oui, donc il n'y a aucune raison de s'en priver.
Ça, vendre Maurice, vendre des photos des Smiths au prix de la viande, déjà, je trouve.
Et vous êtes fier de vous?
Je suis pas fier, mais la fierté, c'est de la vanité. Mais en tout cas, ça suffit à ma joie pour la journée, quoi.
Mais c'est peut-être ça, la définition de la pop culture, finalement.
Je sais pas.
C'est de vendre au prix de la viande un livre dans lequel il y a des photos des Smiths.
Photos de Maurice.
Oui, c'est ça. Mais...
Pourquoi pas? Le sous-titre du livre, on l'a dit, c'est Un œil sur la musique. Que fait l'autre? Pendant qu'il y en a un sur la musique. Est-ce que vous êtes monomaniaque?
Il faut fermer l'œil pour bien voir dans le viseur, en fait. Il faut avoir pour faire réussir sa photo, il faut bien avoir un œil qui concentre, l'œil directeur, et l'autre œil qui ferme et qui regarde, enfin, qui, voilà. Donc un œil sur la musique et l'autre qui est bien fermé.
Mais ce serait pas judicieux plutôt d'y jeter une oreille plutôt qu'un œil, parce qu'il y a une question de musique.
À part ça, il y a beaucoup de gens qui font de la musique et c'est vrai qu'en tant que photographe, il est assez possible de choisir un petit peu qui on photographie et à ce jeu-là, c'est assez fréquent que je dise que je photographie avec les oreilles pour vous répondre à votre question.
Richard Béliat, ce format, ce livre, Un œil sur le rock'n'roll, je viens de le lire, 5,6 kg, 1100 photos, c'est un format XXL. Est-ce que ça vous pose quelques problèmes, notamment pour la distribution? Comment faites-vous? Parce que j'imagine que le coût d'envoi par la poste doit approcher le prix du livre.
Oui, alors voilà, la distribution d'un livre, c'est vraiment un métier en soi. Et c'est déjà pas le mien. Et donc le livre n'est pas distribué.
Comment fait-on pour se le procurer alors?
C'est pas caché. Hein. Juste, j'ai pas pu rentrer dans la grande distribution, dans les grands systèmes de distribution, avec un truc beaucoup trop lourd. Au départ, je suis parti avec 17 tonnes de papier. Le livre fait 5 kilos. J'en ai fait 3000 exemplaires. Faites le calcul, c'est 17 tonnes. Et c'est très très compliqué à transporter. Et si je veux que ça soit dans toutes les grandes enseignes et tout, littéralement il me faut un camion, il faut que je fasse le tour de France. Mm-hmm. c'est pas l'idée. Mm-hmm. Je le vends sur mon site internet. Mm-hmm. Où il y a une commande directe, où on a des accords avec des transporteurs, donc ça coûte pas très très cher à l'envoyer malgré le poids. Et puis sinon je fais des expositions et des vernissages ou des conférences ou des rencontres, et en fait c'est je me trimballe avec mon livre, voilà.
Puisqu'on y est, donné le nom de votre site internet qu'on puisse aller voir.
C'est mon nom. C'est mon nom et mon prénom, c'est richardbelia.com.
richardbelia.com.
Votre première photo de concert, c'était Bijoux, C'est bien ça?
Ouais.
Pour autant, quel est le tout premier artiste dont vous êtes dit en le voyant sur scène que vous adoreriez lui tirer le portrait?
Robert Smith.
C'est marrant, je sentais que ce point Robert Smith allait arriver très rapidement.
Nous y sommes. Robert Smith de Cure, donc pourquoi Robert Smith?
Parce qu'on n'a pas le même âge, il a 3 ou 4 ans de plus que moi, un truc comme ça. Vraiment, c'est un son que je me suis pris dans les. Vraiment, c'est un souvenir d'adolescence, d'enfance. Non, c'est pas d'enfance, mais vraiment le son de The Cure, je me suis pris dans les gencives, ça m'a. C'était vraiment pile pour moi.
Je vous interromps une seconde, mais peut-être y a-t-il parmi nos auditeurs des gens qui ne savent pas ce que c'est que le son de Robert Smith. Écoutez. Alors moi, ça me rappelle quand même vaguement quelque chose, mais oui, ça a servi de générique aux Enfants du Rock.
Pas du rock'n'roll, du rock.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Bah oui. Mais enfin là, c'était en 80, donc le Cure existait depuis bien longtemps avant.
Oui.
Mais vous avez eu donc un choc
quand Cure, ils ont fait ça, ça faisait 5 ans que je les photographiais déjà.
C'est ça.
Quand je vous parle de mon intérêt pour Cure, c'est la musique 5 ans avant ça, qui sont vraiment des chansons très très courtes. Mm-hmm. Le premier album de Cure, il fait 30 et quelques minutes, et il y a plein de chansons, c'est vraiment une grosse énergie. Mm-hmm. C'est ce son-là de Cure dont je parle et qui m'intéresse. Mm-hmm. Techniquement, ça fait 35 ans que leur musique m'intéresse beaucoup moins, je trouve qu'elle est beaucoup trop molle. Mm-hmm. Mais vraiment le tout début, je m'en suis encore pas tout à fait, enfin, j'exagère, mais j'aimais vraiment beaucoup. Ouais, ouais.
Richard Belia, vous avez photographié, alors attendez, je prends ma respiration. David Bowie,
Iggy Pop, Paul McCartney, Björk, Chet Baker, James Brown, Nina Hagen, Ray Charles, Miles Davis, Blake, Lou Reed, Leonard Cohen, Cliff Richard, Serge Gainsbourg, Michael Jackson, Les Stranglers, Herman's Beastie Boys, Shoo Kee, Wire, The Cramps, Sonny Young.
Pardon. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à photographier des musiciens
qu'en
1980?
Oui.
C'est-à-dire que votre enthousiasme est intact?
Oui, parce que je l'ai choisi. Je travaille de manière totalement indépendante, donc je ne prends pas d'ordre d'un journal qui me dit, ou d'une maison de disques qui me dit machin, va faire facile, va ça. Je photographie ce qui me plaît. Mm-hmm. Donc s'il y a de la musique pas intéressante, si les gens m'embêtent, j'y vais pas, j'embête personne. Par contre, si c'est bien, j'y vais, ouais.
Oui, mais votre enthousiasme aurait pu s'émousser avec le temps. Je sais pas, la répétition, non.
Ce qui me fatigue le plus avec le temps qui passe, en fait, c'est la manière technique dont est présentée la musique sur scène et qui me va pas beaucoup maintenant. Je trouve le son tout mou avec les consoles numériques. Mm-hmm. Je trouve l'éclairage tout mou avec les LED. C'est difficile de trouver, c'est difficile d'être happé par l'énergie d'une musique quand maintenant ça y est, ça s'est généralisé, toutes les salles de France, elles ont des consoles numériques. Je me fais assez facilement envahir par une nostalgie
Vous êtes pas en train de me faire le coup du c'était mieux avant.
C'était mieux avant.
Si, il est en train de vous le faire, Antoine.
C'était mieux avant, le son était meilleur. Le son était meilleur, il y avait une plus d'attaque. Regardez les concerts maintenant, par exemple, les gens ne font plus semblant de jouer de la guitare avec les mains en entendant la musique. La musique n'a plus de... En fait, c'est parce qu'avant, c'était une des consoles analogiques qui amplifiait le son qu'on se prenait directement dans les gencives. Et maintenant, les consoles numériques, c'est une numérisation du son qui ressort après. Et la différence, elle est absolument gigantesque parce qu'en fait, on gagne en force. On a un son qui est plus gros, plus fat, qui prend plus. Mm-hmm. Et donc, ça crée des musiques. Par exemple, Bloody Beetroot, le truc techno, ou alors PNL, par exemple, en rap et tout ça. Mm-hmm. Ce sont des musiques qui ont un peu d'intérêt, parce que le son, il est comme ça, il est tout fat.
C'est exactement ce que j'ai entendu au concert de PNL.
Ouais, c'est ça. Mais même Queen of the Stone Age, qui sont plutôt dans un registre plutôt, enfin, on serait censé se les prendre. Mm. Ils sont aussi, et j'y sais ça, tant que j'y vais hier soir, pareil. Ils sont plutôt sur des sons plutôt d'atmosphère, parce que l'attaque, on se la prend plus avant. Donc oui, je suis en train...
Vous n'êtes pas en train de traiter Josh Homme de mou, quand même, hein. Attention.
Non, c'est le son. Non, 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 le son.
Il est très prudent. Non, non, il a pas le choix. Non, non, il a pas la présidente du fan club.
Il a pas le choix, le mec. Il a pas le choix. Il est victime de son de ce qu'il il a pas le choix.
Ce raisonnement avec l'analogique, le numérique, vous l'appliquez aussi à la photo. C'est-à-dire que vous préférez travailler en argentique avec un appareil, un vieil appareil, un Hasselblad, hein, format moyen format, plutôt qu'un appareil numérique.
Oui.
Parce que vous retrouvez dans cette photo une matière que vous ne trouvez pas avec le numérique.
Bah, il y a une matière qui n'existe pas en numérique, oui, tout à fait. Oui. Je râle 20 minutes sur le numérique ou on passe à autre
non,
chose.
Non, pas 20 minutes, une.
Une minute. Vous savez ce que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait pour préparer cette émission, pensant qu'on allait probablement parler de la différence entre argentique et numérique.
Non,
je me suis un petit peu. Et moi, je suis allé dans les magasins pour regarder les magasins d'appareils photo numériques et pour leur demander si c'était marqué appareil photo sur l'emballage.
Et alors?
C'est une bonne question, non?
Oui. Et il y a marqué appareil photo?
Non.
Appareil numérique?
Non. Mm-hmm. C'est marqué, enfin, recording devices, caisse enregistreuse.
Oui, mais ça, c'est des nuances sémantiques. C'est-à-dire que l'appareil... Oula, mais regardez pas comme ça, Richard. Oula, il me jette un regard noir. Richard, revenez avec nous. Non, n'attaquez pas.
Les gars, la sémantique, c'est pas une question d'appréciation.
Enfin, mais je dis ça juste pour vous emmerder.
Ah oui, bah
c'est
vous
réussi.
Dire, bah ça marche.
C'est réussi, ouais.
Non, mais je récuse l'utilisation du mot photographie pour les gens qui ont des appareils numériques. Uh-huh. Voilà. Avec un appareil numérique, on se retrouve avec un fichier qui s'ouvre avec un logiciel de traitement d'image. Donc, on fait des images. Ouais. On fait des pixels avec un appareil photo numérique. Et pixel, c'est l'abréviation de picture element, qui veut dire élément de l'image. Vous voyez, je suis allé regarder les appareils photo numériques et non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la vraie différence entre argentique et numérique, c'est qu'un un c'est de la photo et puis pas l'autre.
Bon, alors l'argentique c'était mieux et l'analogique c'était mieux pour le son.
Si on vous demande, en dehors de Robert Smith, votre meilleur souvenir photo et le pire, parce qu'il semblerait que vous n'ayez pas un souvenir impérissable de Lou Reed, mais je veux pas balancer.
Ah non, mais il y en a plein, il n'y avait pas que Lou Reed, hein, des gens très très...
Des bons relous.
Des bons relous, et ouais. des bons relous qui vont me gâcher ma soirée quand je vais réécouter le podcast de l'émission. Il y en a plein, ouais. Bjork, ouah, comment elle s'appelle, Patti Smith.
Ah oui, vraiment.
Waouh.
Patti Smith, quelle époque?
À toute époque. Alors là, c'est là. Je suis sûr qu'à son enterrement, ça va être marqué pas de photographe. Alors ça, Patti Smith est chiante.
Mais non, mais Richard, peut-être qu'elle n'aime pas être prise en photo.
Oui. Voilà.
Oui, mais c'est tout.
C'est pas une raison pour parler aux gens comme des chiens.
D'accord.
Et les meilleurs souvenirs?
Oh, des gens qui sont super. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est quand vous avez un vrai coup de cœur pour les musiciens et que ou pour leurs disques, et que vous le chanteur des Pixies. Qu'est-ce que c'est cool de se rendre compte que ce type est tout à fait tranquille. Elle fait un poids. Ah, et bien tasique, toi t'es trop cool, mec. Est-ce que je veux dire, c'est une vraie joie, quoi.
Richard Bellia, votre mot d'ordre, hein, c'est pas de longues séances de pause, pas de mise en scène. Est-ce que c'est compliqué dans ces conditions de convaincre vos sujets?
Oh non, au contraire, les gens ils vous ont à la bonne. Et quand vous arrivez, on dit j'ai un compteur sur mon boîtier là, et c'est vraiment l'argument que j'utilise le plus souvent en disant oh, bonjour, regardez, j'ai un 12 poses, c'est 12 poses, et regardez, ça fait 7, il me reste 5 photos, bon on va les faire.
Et ça marche à chaque fois ça?
Ben, c'est comme ça que ça a marché avec Daniel Johnston. Et, tous mes collègues photographes, ils font, t'as eu Daniel Johnston? Parce que Daniel Johnston, pour avoir son attention, il faut lui dire, quand ça commence et quand ça finit, quoi.
Ouais, ouais.
Et typiquement, montrer le compteur de son boîtier c'est les mecs qui vous ont à la bonne, quoi, parce qu'ils voient quand ça va être fini. Mmh. Donc c'est mon argument massue, ouais.
Bon, Richard, on l'aura compris, vous savez faire mille choses, mais est-ce que vous savez faire ça?
Oui.
Bah, faites-le. Oh là, il retire ses lunettes, le casque.
Ah, pardon. Voilà.
Ah bah voilà, mais c'est tout simple. Bon, en plus, c'était juste...
Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais le clown chez vous?
Mais
quoi,
parce que je vous le demande, Richard.
Mais pourquoi je vous écoute?
Mais c'est juste pour me faire plaisir.
Mais
de toute
non,
façon,
mais
c'est
non.
Juste... Mais si, c'est juste pour lancer
et
les...
Et après, les gens vont me prendre pour un clown.
Mais non, non pas du tout.
Jason Statham, le meilleur de tous les hommes d'action, est sous l'eau, au propre, hein, pas au figuré. Dans son prochain film, il part au fond du Pacifique pour une mission de sauvetage à bord d'un endroit mi-sous-marin, mi-plateforme habitable. Et laissez-moi vous dire qu'outre les gens qui sont à bord de la dite base sous-marine, il n'est pas seul.
There's a monster outside.
What you people discovered is bigger than we ever thought possible.
How big is that thing?
It was the largest shark that ever existed.
A living fossil.
Thought to have been extinct for over 2 million years.
Wrong.
Oui, je vous parle d'un film dans lequel Jason Statham se bat contre un requin préhistorique géant. C'est forcément génial, ça s'appelle The Meg, pour Megalodon, et ça sort le 15 août.
Une nouvelle web-série à ne pas rater sur le site d'Arte, son titre Tokyo Paranormal, soit 15 fois 5 minutes de tour d'horizon de ce Japon qui aime se faire peur. Au menu, légendes urbaines, l'encre damnée du manga, la malédiction d'Oiwa, terreur en kimono, Yuki Onna, la femme des neiges, le but aux danses, l'estampe infernale ou encore les écrans démoniaques dont voici un extrait.
Le Japon, c'est l'empire des esprits et Tokyo, son centre occulte. Si 8 millions de divinités se cachent encore dans les montagnes et les cours d'eau de l'archipel, les fantômes sont aujourd'hui dans les villes. On ne compte plus les témoignages signalant leur présence maléfique au sein des tours de verre et des parkings souterrains. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est leur infiltration dans l'intérieur même des écrans numériques.
Ça fait peur.
Et conseil complémentaire à ce visionnage indispensable, la magnifique exposition Fantômes d'Asie au musée du Quai Branly.
Ouvrez les guillemets, une célébration de la création, de l'estime de soi, de la sexualité et du pussy power. Fermez les guillemets. Ah, le fameux pouvoir de la chanson. Voici l'ambition de la chanteuse de R&B chic, Janelle Monáe, qui vient de dévoiler un troisième single issu de son quatrième album à paraître. Ce titre, c'est Pink, en collaboration avec Grimes.
So here we are in the car, leaving traces of us down the boulevard. I wanna fall through the stars, getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever.
Sunny, money, keep it.
Et le quatrième album de Janelle Monáe, Dirty Computer, sortira le 27 avril.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
On dirait la voix des documentaires sur le Japon qui fait peur.
Merci Charline. Richard Bellia, avant d'accueillir Hugh Coltman, on va écouter une nouveauté qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle The Yopers. C'est un groupe américain qui sera en concert à la Boule Noire le 18 avril. Et le morceau, c'est A Decision Is Made. Vous devriez aimer ça.
Blood every tender with mine. Me, myself, extension divine. Two children, one body, one girl, one son. What life did I give you when it's barely begun? Life ain't gonna be a ritual war. Maybe that's singing out a genuine chord. This is a world that means not a way. So here is a child that I must forsake. So draw my eyes with a trembling tear. Thrill my bosom and disrupt my fear. Told my time with the armistice bell. Mother, give me a thing.
Shame, I'm a beating divine. Well, high sales, you prodigal whore. Slanderous girl, you fester a bore. Even in your center, your womb carries void. An apocalypse child, it must be destroyed. It's coming, doctor, in to induce correction. Making sin, abort insurrection. With the morning light, hitting boys and the sea. The smother, the blind, the sick of the weak.
Crying, flesh and bone, face and wild across the ring. The needle
Ça a la santé, ça.
Decision is made. Oui, ça a la santé, Richard Belia. C'est une nouveauté venue du groupe américain The Yoppers. Je crois que c'est leur troisième album dans Pop 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 sur France Inter. Et ils seront donc en concert à Paris à la Boule Noire le 18 avril. Nous sommes toujours en compagnie du photographe Richard Belia. Et vient de nous rejoindre Hugh Coltman, chanteur anglais de son état, vivant à Paris, l'Englishman in Montreuil, Seine-Saint-Denis. C'est lui. Bonjour Hugh Coltman.
Bonjour.
Hugh Coltman, vous venez de sortir votre quatrième album solo, Who's Happy? Alors on vous pose la question, Who's Happy?
I don't know, are you happy?
You're going to speak English now?
Non, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes content?
Moi, je suis très heureux. De faire cette émission. Je suis très heureux tous les jours de rencontrer des gens comme vous, de pouvoir parler de cette musique, de cette culture, d'être avec Charline Roux. Mais vous êtes heureux?
En général. C'est un titre qui se pose la question plutôt pour se demander ce que ça veut dire d'être heureux. Parce qu'aujourd'hui, on est renvoyé toujours sur les smileys, sur les how you feel, comment va, super, tout va bien, c'est génial. Mais c'est pas ça la vie. Il y a des moments de haut, des moments de bas, des moments où c'est chiant. Et peut-être, c'est aussi sur le fait que j'ai 45 ans et peut-être j'arrive maintenant à faire un équilibre entre ces moments de pure joie et les moments qui sont chiants ou pénibles.
C'est la France qui vous a rendu heureux. Vous êtes installé ici en 99 ou 2000?
En 2000, ouais.
Voilà, en 2000. Et n'est-ce pas que la France, c'est bien mieux que l'Angleterre?
Écoutez, j'ai deux pieds. Il y a un pied ici, un pied là-bas.
Mais là, le pied est ici, il est ici.
Il est mieux, oui. C'est ça. Peut-être depuis Brexit, un peu.
Tu marches dans l'Angleterre du pied gauche, ça porte bonne chance, c'est cool.
Il y a une blague, je ne sais pas si je peux dire. Il y a un ami qui m'avait dit, ouais, mais attends, t'as un pied en France, un pied en Angleterre, où se trouve tes couilles?
Dans la Manche, ça trompe. Dans la...
De toute évidence. Comment est-ce qu'un Britannique vivant en France se retrouve à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer son nouvel album?
Par audace, peut-être. Parce que, en fait, je vais essayer de raccourcir, être bref et concis. Sur mon deuxième disque solo, je voulais tellement que ça soit réalisé par un musicien que j'adore, qui s'appelle John Bryan, qui fait beaucoup de musique de film aux États-Unis, qui a fait un album solo magnifique. Et j'ai adoré, je me suis dit mais c'est lui qu'il me faut. Et en fait finalement j'ai même pas fait la démarche pour aller vers lui, parce que je me suis dit ah non, il va pas aimer, ou ah non c'est trop cher, ou ah non ma musique est pas assez bien bonne, ou etc. Et cette fois-ci, quand je commençais à composer, je commençais à avoir ce truc de fanfare un peu dans la tête qui feature un peu sur le disque, qui est écoutable sur le disque, qui est là. Mais et à un moment je me suis dit mais pourquoi pas, en fait? Et donc, du coup, je suis allé 3-4 mois avant le disque pour rencontrer les musiciens que j'ai pu contacter et voir les studios. Et une fois sur place, tout le montagne devient beaucoup plus simple. Tu te dis, il y a un studio, il y a des musiciens, c'est pareil que chez nous, quoi. Et c'était une bonne décision.
Mais vous êtes d'accord qu'entre la France et la Nouvelle-Orléans...
C'est mieux ici.
Non, entre la France et la Nouvelle-Orléans, le tropisme français reste très fort chez vous.
Certainement. Ça fait 17 ans que je suis là, certainement. Mes enfants, c'est même si c'est pas leur langue maternelle, c'est un peu leur première langue. Oui, ça fait plus qu'un quart de ma vie maintenant. C'est une langue c'est d'ailleurs pour la langue que je suis venu en France, que ma grand-mère en parlait un peu, elle a vécu un petit peu en France. Et quand j'ai quitté mon premier groupe, je viens d'un tout petit village en Angleterre. Je me suis dit je vais soit me trouver caissière, ou pas qu'il y a un problème d'être caissière, mais à un moment je me dis parce qu'il y avait plus de musiciens dans mon village, je vais épuiser le stock. Et à un moment je me suis dit je vais aller à Londres ou à Edinburgh, et je suis allé en vacances en France avec une copine, et je me dis mais pourquoi pas. La langue m'avait toujours interpellé, je trouvais ça joli aussi. Il y a un fabuleux historique de littérature française, ouais. Et même les écrivains américains qui sont installés en France, Gertrude Stein, Hemingway et tout ça. Donc j'ai traîné comme tout à côté comment ça s'appelle cette bookshop là,
Shakespeare
voilà, j'ai traîné par là, c'est dans les cafés, etc.
Votre album Who's Happy a été enregistré, pour être encore plus précise, à la Third Presbyterian Church, un ancien temple presbytérien reconverti en studio d'enregistrement. Qu'est-ce que ce lieu a amené au son de cet album?
J'ai cherché un son particulier pour cet album. J'ai cherché un son avec beaucoup d'espace où il y a un phénomène dans l'enregistrement qui s'appelle le repice, où par exemple le micro qui prend par exemple la voix ou qui prend une trompette entend aussi le saxophone ou la batterie qui est dans la même pièce. Ouais. Et donc je voulais cette son parce que je voulais qu'on joue ensemble et je voulais que ça s'entend quand on joue ensemble. Et aussi, je trouve que les années 80 a fait, en tout cas pour moi, un grand desservice à la musique dans le sens où, avec ces nouvelles manières d'enregistrer, dans tout en piste séparé, tout le monde enregistre séparément dans leur coin, ça fait un truc beaucoup clinique. Après, des musiques de cette époque-là que j'aime beaucoup, mais c'est un beaucoup plus propre, beaucoup plus clinique, et je voulais l'antithèse de ça. Je voulais une musique qui reflète un peu cette ville qui est un bordel, quoi.
Hugh, ça c'est du miel pour les oreilles de Richard Béliat qui nous a fait une tirade tout à l'heure en défendant l'analogique contre
j'étais aux toilettes.
Contre le numérique. Mais non, mais il a fait on a droit à une envolée. Argentique, numérique,
Ça me prend du temps, toi.
Oui, donc, donc là.
Et il avait un argument sémantique en disant, ouais, mais toi, tu penses que la sémantique, c'est important. T'as vraiment raté. C'est important d'aller aux toilettes, mais vraiment, t'as raté quelque chose.
Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission ou sur franceinter.fr, vous pouvez la retrouver dans son intégralité, évidemment.
Donc, vous avez retrouvé dans le studio de la Nouvelle-Orléans quelque chose du son originel.
Oui, après, il y a des studios comme ça à Paris. C'est pas une question de que ce soit Nouvelle-Orléans, particulièrement pour le son. Mais aussi, pour moi, il y avait un côté peut-être exotisme.
Il y a une âme.
Ah bah oui, non mais il y a une histoire de folie. J'ai passé devant un studio qui est maintenant une laverie, et c'était le studio de Cosmo Matassa, qui est le producteur de, on va dire, peut-être les premiers disques de rock'n'roll, Fats Domino, et c'est un endroit mythique, et c'est une laverie, quoi, avec une pauvre plaque devant, en face du Congo Square, Armstrong Park. C'est un endroit qui est, ça compte même pas toute l'histoire d'Acadien et la musique le folk cajun et tous ces trucs là. C'est incroyable cette histoire.
Richard, vous avez déjà mis les pieds à la Nouvelle-Orléans?
Non.
Bah, il faut y aller, là.
Merci de me donner des ordres, oui.
Mais c'est pas un ordre! Il était gêné! C'est un conseil amical!
Non, c'est un impératif. Faut y aller, c'est un impératif.
Mais non, Richard,
vous voulez que j'enchaîne, patron?
Vous me cherchez.
Il y a la syntaxe et la sémantique.
Dernière question, Hugh Kaufmann. En 2017, vous avez été gratifié du titre de voix de l'année aux Victoires du Jazz. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour la préserver? Secret, maintenant, tout de suite.
Ça se conserve, si ça se conserve, et si ça se rate, ça se rate. Mais bon, après, il y a des voix qui... Moi, l'avant-dernier disque de Tom Waits, de Dylan, est incroyable, mais après sa maladie, parce que du coup, ça véhicule un truc, quoi. Donc, une voix vieillie avec la personne, et espérons juste que ça reste un peu musical, quoi.
Bon, Hugh Kaufmann, assez de papotage, on a envie de vous écouter chanter. Votre nouvel album, Wuzapi, votre quatrième album solo, allez rejoindre la scène gigantesque, s'il vous plaît, de Pop, pendant que je meuble un peu, en attendant que Richard m'interrompe pour m'insulter à nouveau.
Mais n'en venez pas aux mains, moi j'ai
non,
pas
non,
le...
Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, on s'aime. Votre quatrième album, Wuzapi, nous l'avons déjà joué dans l'émission, dans Pop, dans ses versions orchestrales. Et là, c'est une version acoustique que vous nous proposez d'un des morceaux. C'est à vous, dès que j'aurai fait...
Je l'ai eu en live. Postale d'Écosse, du chocolat au Calvados, moitié entamé, deux sacs de DVD d'une série de télé, toujours emballée, et trois cravates encrassées de la société où il bossait pendant les années. Et là, dessous l'escalier, photo de jeunes mariés, London. Hand me downs
all the baggage that you drag around. Hand me down, tied and bound, mes pieds sur une piste de danse, chantant ton ré et ta cadence, et ton déhanché, le regard des aînés. Un dialogue a entamé avec le passé. Même le petit verre de rhum, c'est ta manière de siroter que j'ai embarqué, tu vois, jusqu'au bout des doigts. Surprise par ton ombre, parfois elle me parle de toi. Hand me down, all the baggage that you drag around. Hand me down. Walk with me down the street, you're looking at your granddad's watch, though many years ago it stopped. Like the time between us, I walk you to the bus, the wind is blowing on your hair, and I kiss you goodbye, and I realize the hand-me-downs that I own, you're now one. Hand-me-downs, all the baggage that you drag around. Hand-me-downs, tied and bound. Oh, hand-me-downs, all the baggage that you drag around. Hand me down, tied and bound. Ba ba da ba ba da ba 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 da ba 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 da ba ba da da da.
Hugh Goldman, c'était Hands Me Down en live dans Pop 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 sur France Inter. Merci à tous, merci Hugh Goldman. Vous êtes ce soir en concert au Bataclan, vous serez le 20 avril à Schiltigheim, le, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais oui, le 19 mai à Marly et dans plusieurs festivals cet été. Les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr et j'en profite pour rappeler que votre quatrième album solo Who's Happy est bien sûr toujours disponible. Merci Richard Bellia, un œil sur la musique.
Merci à vous.
C'est édité chez vous, enfin chez Richard Bellia édition.
Et non, la boîte d'édition s'appelle 123 ISO.
Pardon, 123 ISO, ah. Et on peut, il est disponible sur votre site richardbellia.com. Demain, dans Pop Pop Pop, une spéciale Groland. Bonjour Charline Vanhoenacke.
Chic. Bonjour Antoine de Koun. Nous recevons Salvatore Adamo. Alex Vizorek est en hyperventilation. S'il lui faut du faire du bouche à bouche, vous y collez.
Mais ça fait beaucoup de belges d'un seul coup, non?
Ah, je n'en ai pas fait exprès, hein. Le talent est là, hein, c'est ce que je vous dise, moi.
Bien, on vous retrouve juste après les infos.